« Il peut se passer de grandes choses cette nuit, » répondit Édouard. Philippa restait calme et placide en apparence, mais le cœur lui battait à grands coups dans la poitrine. Elle se rappelait leur conversation d'York. « Croyez-vous qu'il veuille venir vous assassiner ?»« Cela aussi peut se faire. » Il y eut un bruit de voix chuchoté dans la pièce voisine, et Gauthier de Mauny, que le roi avait désigné pour prendre la garde en son antichambre, frappa discrètement la porte. Édouard alla ouvrir.
« Le constable est là, my lord, et les autres avec lui. »
Édouard revint poser un baiser sur le front de Philippa. Elle lui saisit les doigts, les tint un instant étroitement serrés et murmura « Dieu te garde. » Gauthier de Mauny demanda « Dois-je vous suivre, my lord ?»« Ferme étroitement les portes derrière moi et veille sur madame Philippa. » Dans la cour herbue du donjon, sous la clarté de la lune, les conjurés attendaient rassemblés autour du puits, ombres armées de glaives et de haches. La jeunesse du royaume s'était entourée les pieds de chiffons. Le roi n'avait pas pris cette précaution et son pas fut seul à résonner sur les dalles des longs couloirs. Une unique torche éclairait cette marche. Aux serviteurs allongés à même le sol et qui se soulevaient somnolents, on murmurait « Le roi !» et ils demeuraient où ils étaient, se tassant sur eux-mêmes, inquiets de cette promenade nocturne de seigneurs en armes, mais ne cherchant pas à en savoir trop. La bagarre éclata seulement dans l'antichambre des appartements de la reine Isabelle, où les 6 écuyers postés là par Mortimer refusèrent le passage, bien que ce fût le roi qui le demanda. Bataille fort brève, où seul John Neville de Hornby fut blessé d'un coup de pique qui lui traversa le bras. Cernés et désarmés, les hommes de garde se collèrent au mur. L'affaire n'avait duré qu'une minute, mais derrière l'épaisse porte, on entendit un cri échappé de la gorge de la reine-mère, puis le bruit de traverse poussée. « Lord Mortimer, sortez !» commanda Édouard III. « C'est votre roi qui vient vous appréhender !» Il avait pris sa claire et forte voix de bataille, celle aussi que la foule d'York avait entendue le jour de son mariage. Il n'y eut d'autre réponse qu'un tintement d'épée tiré hors d'un fourreau. « Mortimer, sortez !» répéta le jeune roi. Il attendit encore quelques secondes, puis soudain saisit la plus proche hache des mains d'un jeune lord, l'éleva au-dessus de sa tête et de toutes ses forces l'abattit contre la porte. Ce coup de hache, c'était l'affirmation trop longtemps attendue de sa puissance royale, la fin de ses humiliations, le terme aux arrêts délivrés contre son vouloir. C'était la libération de son parlement, l'honneur rendu au lord et la légalité restaurée au royaume. Bien plus que le jour du couronnement, le règne d'Édouard III commençait là, avec ce fer brillant planté dans le chêne sombre et ce choc, ce grand craquement de bois dont l'écho se répercuta sous les voûtes de Nottingham. 10 autres haches s'attaquèrent à la porte et bientôt le lourd ventail céda. Roger Mortimer était au centre de la pièce. Il avait eu le temps de passer des chausses, sa chemise blanche était ouverte sur la poitrine et il tenait son épée à la main. Son œil couleur de pierre brillait sous les sourcils épais. Ses cheveux grisonnants et dépeignés entouraient son rude visage. Il y avait encore une belle force en cet homme-là. Isabelle, auprès de lui, les joues baignées de larmes, tremblait de froid et de peur. Ses minces pieds nus faisaient 2 taches claires sur le dallage. On apercevait dans la pièce voisine un lit défait. Le premier regard du roi fut pour le ventre de la reine-mère, dont la robe de nuit dessinait l'arrondi. Jamais Édouard III ne pardonnerait à Mortimer d'avoir réduit sa mère, que ses souvenirs lui représentaient si belle et si vaillante dans l'adversité, si cruelle dans le triomphe mais toujours parfaitement royale, à cet état de femelle éplorée à qui l'on venait arracher le mâle dont elle était grosse et qui se tordait les mains en gémissant.
« beau fils, je vous en conjure, épargnez le gentil Mortimer !»
Elle s'était placée entre son fils et son amant.
« A-t-il épargné votre honneur ?» dit Édouard.
« Ne faites point de mal à son corps !» cria Isabelle. « Il est vaillant chevalier, notre ami bien-aimé. Rappelez-vous que vous lui devez votre trône !»
Les conjurés hésitaient. Allait-il y avoir combat et faudrait-il tuer Mortimer sous les yeux de la reine ?«
Il s'est assez payé d'avoir hâté mon règne. Allez, mes lords, qu'on s'en saisisse !»
dit le jeune roi en écartant sa mère et en faisant signe à ses compagnons d'avancer. Montagu, les Bowen, Lord Mullins et John Neville, dont le sang ruisselait de sang, sans qu'il y prît garde, entourèrent Mortimer. Deux haches se levèrent derrière lui, trois lames se dirigèrent vers ses flancs, une main s'abattit sur son bras pour lui faire lâcher l'épée qu'il tenait. On le poussa vers la porte. Au moment de la franchir, Mortimer se retourna.
« Adieu, Isabelle, ma reine !» s'écria-t-il. « Nous nous sommes bien aimés !»
Et c'était vrai. Le plus grand, le plus spectaculaire, le plus dévastateur amour du siècle, commencé comme un exploit de chevalerie et qui avait ému toutes les cours d'Europe, jusqu'à celle du Saint-Siège. Cette passion qui avait frété une flotte, équipé une armée, s'était consommée dans un pouvoir tyrannique et sanglant, s'achevait entre des haches, à la lueur d'une torche fumeuse. Roger Mortimer, 8e baron de Wigmore, ancien grand juge d'Irlande, premier comte des Marches, était conduit vers les prisons. Sa royale maîtresse, en chemise, s'écroulait au pied du lit. Avant l'aurore, Bearford, Devril, Wynyard et les principales créatures de Mortimer étaient arrêtés. On se lançait à la poursuite du sénéchal Maltravers, de Gournay et Ogle, les trois meurtriers d'Édouard II, qui avaient aussitôt pris la fuite. La foule au matin s'était massée dans les rues de Nottingham et hurlait sa joie au passage de l'escorte qui emmenait sur une charrette, suprême honte pour un chevalier, Mortimer enchaîné. Torscoll, l'oreille sur l'épaule, était au premier rang de la population, et bien que ses yeux malades vissent à peine le cortège, il dansait sur place et lançait en l'air son bonnet. « Où le conduit-on ? » demandaient les gens. « À la tour de Londres. »